Et bienvenue sur France Inter, il est 7h. Le journal avec vous, Emmanuel Grabé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin encore, l'affaire Griveaux-Pawlinski, portée en justice. L'ancien candidat à la mairie de Paris porte plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et l'activiste russe est en garde à vue, mais pour une autre affaire. Les autres titres, Emmanuel.
Et on va revenir sur les conséquences politiques du retrait de Benjamin Griveaux. La République En Marche envisage toutes les hypothèses pour la mairie de Paris, même l'abandon pur et simple ou un rabibochage avec Cédric Villani. Un patient qui décède du coronavirus hier, un touriste chinois hospitalisé en France. C'est le premier mort hors d'Asie. On va voir que l'Afrique cristallise désormais les inquiétudes. Et puis, ils vont grandir ensemble, mais attention, on prévient les parents, on ne s'en occupe pas de la même manière. Le département de la Dordogne a lancé hier son opération Une naissance, un arbre pour les heureux parents de 2019. Reportage dans un collège de Sarlat.
Un mot sur l'invité de la matinale à 8h20. Ce sera l'écrivain Didier Deninx pour son dernier livre Municipal, banlieue naufragé, le livre est paru chez Gallimard.
France Inter. À Benjamin Griveaux a porté plainte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après les diffusions des vidéos à caractère sexuel qui l'ont poussé à se retirer de la course à la mairie de Paris. Celui qui revendique avoir rendu publiques ces vidéos, c'est l'activiste russe Piotr Pawlinski, arrêté, placé en garde à vue hier après-midi. Mais officiellement, ce n'est pas pour ces faits qu'il a été interpellé, Ariane Grissel.
Piotr Pawlinski était déjà recherché par les enquêteurs bien avant la diffusion des vidéos à caractère sexuel concernant Benjamin Griveaux. L'artiste russe est visé depuis le début de l'année par une enquête pour violence volontaire avec arme, violence qu'il est soupçonné d'avoir commise sur deux personnes, des faits survenus à Paris dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier. Mais il n'est pas impossible que Piotr Pawlinski soit aussi entendu sur la diffusion de ces vidéos. La plainte de Benjamin Griveaux va maintenant être étudiée en détail et les enquêteurs pourraient consacrer une partie du temps de cette garde à vue, celle qui a commencé hier, à ces images mises en ligne via ce que l'on appelle une garde à vue supplétive. Benjamin Griveaux lui a déposé une plainte contre X pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle vise l'auteur initial de la fuite ainsi que ceux qui ont repris cette diffusion. L'enquête est confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne.
Voilà pour les conséquences judiciaires de cette affaire. Les premières conséquences restent pour La République En Marche désormais à gérer les conséquences politiques à quelques jours de la date limite pour le dépôt des listes. Le parti présidentiel se retrouve sans tête de liste à Paris. Les réunions de crise hier pour trouver le nom de remplacement n'ont rien donné pour le moment. Ce nom devrait être connu au plus tard demain, Simon Le Baron, alors que toutes les hypothèses ou presque restent sur la table.
Une certitude, selon la porte-parole de la campagne, il y aura bien un bulletin En Marche dans les bureaux de vote parisiens. L'hypothèse d'un abandon a pourtant, d'après nos informations, été évoquée hier par certains cadres, ce que réfute Marie-Laure Harel.
Pas du tout, certainement pas.
Trois élus parisiens se sont lancés dans la course, Mounir Majoubi, Sylvain Maillard et Julien Bargeton, mais aucun ne semble faire l'unanimité. Quant à la piste d'un rassemblement avec le camp Villani, peut-être, mais pas derrière le dissident.
Non, Cédric Villani ne sera pas notre candidat. Nous espérons que Cédric Villani puisse rejoindre notre campagne, mais ce n'est pas, il ne fait pas partie des options qui sont sur la table aujourd'hui.
La perle rare doit réunir plusieurs qualités selon les responsables du mouvement présidentiel. L'envie, évidemment, la connaissance de Paris, la capacité à gérer une situation de crise et surtout, elle doit faire consensus. Certains marcheurs poussent Agnès Buzyn, mais la ministre de la Santé est accaparée par l'épidémie de coronavirus. Bref, tout reste flou, mais plus pour longtemps, répète la députée Laetitia Avia.
On est sur une question de quelques heures déjà, c'est-à-dire qu'il y aura bien un candidat en début de semaine.
Pour pouvoir reprendre au plus vite une campagne au point mort, à moins d'un mois désormais du premier tour.
Et dans une interview au journal du dimanche ce matin, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, appelle à un large rassemblement à Paris. Hier, les Gilets jaunes qui défilaient à Paris au 66e samedi de leur mouvement s'en sont donnés à cœur joie sur cette affaire Griveaux. On a pu lire des slogans assez grivois sur les pancartes. Ils étaient environ 300 dans les rues de l'Est de la capitale. À Rennes, ils étaient 900 pour une manifestation non déclarée qui s'est soldée par 7 interpellations après des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. La France serait-elle moins attractive pour les étudiants étrangers? Eh bien, c'est ce qui semble ressortir des derniers chiffres de l'agence Campus France. La part des étudiants étrangers en France stagne alors qu'elle augmente très fortement dans les autres pays en 10 ans, plus 32%. 11% dans notre pays, plus 71% dans les autres pays.
Un patient atteint du coronavirus est mort hier en France et c'est la première fois que ça arrive hors d'Asie.
Un touriste chinois de 80 ans, hospitalisé dans un état grave fin janvier, alors qu'un nouveau cas positif a été révélé hier en France, un Britannique contaminé avec 5 de ses compatriotes dans un chalet de Haute-Savoie. En revanche, aucun cas positif n'a été diagnostiqué chez les Français rapatriés de Wuhan. Les derniers, encore en quarantaine à Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence, sortent ce matin. En Chine, les autorités annoncent chaque jour de nouveaux décès, près de 1700 désormais, et des centaines de nouvelles contaminations, quasiment 70 000. Mais c'est vers l'Afrique que les regards inquiets se tournent, Hélène Chevalier. Un premier cas a été découvert vendredi avec la crainte d'une expansion rapide de la maladie sur le continent.
Depuis le début de l'épidémie, les autorités sanitaires mondiales surveillent l'Afrique comme le lait sur le feu. Des milliers de tests ont été envoyés, des formations auprès d'équipes médicales africaines ont également été organisées en urgence par des experts de l'OMS et des laboratoires étrangers comme l'Institut Pasteur. Les systèmes de santé africains sont en effet très fragiles, explique le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon.
On sait que dans certains pays, les gens, quand ils sont malades, ne vont pas faire un recours aux soins, ils ne vont pas à l'hôpital. Et donc, c'est là qu'il y a un danger, où il y a un risque effectivement de dissémination. Et que ce que l'on a pu faire, ce que l'on a pu maîtriser en Europe en particulier, aux États-Unis ou même en Asie, eh bien finalement, les Africains n'aient pas la capacité de le faire, tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés pour le faire.
Au vu des liens que certains pays africains ont avec la Chine, les spécialistes s'étonnent qu'un seul cas n'ait été diagnostiqué depuis le début de l'épidémie. Faute de tests, d'autres cas auraient pu ne pas être repérés. Si pour le moment les virologues n'ont aucune certitude, certains émettent l'hypothèse que le climat pourrait être un atout. En 2003, l'épidémie de SRAS, maladie infectieuse qui appartient à la famille des coronavirus, s'était arrêtée au mois de juin, à l'arrivée des premières chaleurs.
Voilà, et hors de Chine, le principal foyer infectieux se situe sur le paquebot Diamond Princess, actuellement au large de Yokohama. 355 cas ont été détectés à bord, ce qui a poussé les autorités canadiennes, américaines et hongkongaises notamment à exiger le débarquement et le rapatriement de leurs ressortissants. L'ambassade américaine à Bagdad, de nouveau visée par des roquettes cette nuit. Plusieurs se sont abattus près du bâtiment. Pas de dégâts, pas de victimes signalées pour l'heure. C'est la 19e fois en 4 mois que les intérêts américains en Irak sont attaqués.
Une naissance, un arbre, un slogan, et c'est aussi le nom de l'opération lancée depuis janvier par le conseil départemental de la Dordogne.
Qui a organisé hier la distribution de jeunes pousses, de jeunes arbres aux familles qui se sont agrandies en 2019. Franc succès pour cette opération, 1500 par an sur les 3000 naissances ont répondu positivement. Ils avaient reçu le mois dernier chez eux un coupon, ils devaient choisir l'essence d'arbre désiré, un chêne, un noyer, un cerisier, et le lieu de retrait. Théo Cobel s'est rendu dans l'un de ces lieux, le collège La Boétie à Sarlat, où hier plus de 150 arbres ont été distribués.
C'est une queue de poussettes qui traverse la cour du collège de La Boétie. Des parents souvent venus avec leur nouveau-né récupérer leur arbre de naissance.
Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît?
Delbos, Sana.
Delbos.
Oui, c'est ça, c'est un cerisier.
Yona, c'est ça?
Merci.
On va vous donner des conseils pour la plantation et puis pour jardiner au naturel dans
super.
Notre jardin.
Ben, je trouve que c'est super. Je vais donner ça à mon mari et comme il est dans les espaces verts, ça devrait le faire.
Reste désormais à entretenir l'arbre pour le faire grandir aussi bien que le bébé. Mais si les parents sont contents, les frères et sœurs, eux, boudent un peu. Laetitia est la maman d'un petit Ethan, 7 ans, légèrement jaloux.
Il comprend pas pourquoi lui il en a pas, 2013 donc forcément. Donc du coup on va aller lui en acheter un pour lui aussi.
Du côté du département, on se félicite de cette première. Germinal Perrault est le président du conseil départemental.
On a été surpris, on a eu à peu près 3000 naissances en Dordogne en 2019 et il y en a plus de la moitié qui ont répondu, plus de 1500. Ça nous fait plaisir de voir des bébés aussi, ça veut dire que la Dordogne c'est pas uniquement un département qui vieillit, c'est aussi un département où on a envie d'élever ses enfants.
Et il annonce l'opération sera reconduite pour les bébés de 2020.
Un reportage France Bleu Périgord signé Théo Cobel.
C'était le journal d'Emmanuel Grabé.